السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها المسلمون، qu'on me demande de traiter aujourd'hui, s'intitule « Ton père, ta mère, deux joyaux et non pas deux fardeaux ». En guise d'introduction, je tiens tout d'abord à préciser qu'en réalité c'est un fardeau pour moi de traiter ce sujet. Tout au long de la préparation de ce sujet, j'ai ressenti la négligence qui est la mienne et qui est probablement la négligence de la plupart d'entre nous envers nos parents, envers nos pères, envers nos mères. Le peu, même si on essaie de faire notre possible, le peu qu'on rend à nos pères et nos mères en guise de gratitude pour l'éducation qu'ils nous ont donnée, pour les sacrifices qu'ils ont faits pour nous. Le respect des parents, le bon comportement avec les parents, l'obéissance aux parents, qu'on appelle en arabe « birrul walidayn », a une place prépondérante dans notre religion, l'islam. L'obéissance, le respect des parents, a une place tellement importante que c'est un sujet sur lequel Al-Qur'an, le Coran, Allah Azza wa Jalla à travers le Coran, nous rappelle à plusieurs reprises l'importance de ce sujet, la gravité de ne pas respecter ses parents. Allah Azza wa Jalla nous dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur décréta de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers les pères et envers les mères, envers les parents, d'être bon envers les parents. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Si l'un d'entre eux arrive à un âge avancé ou tous les deux, alors ne leur dis pas ouf, ne les méprise pas en soupirant et ne les réprimande pas, ne les brusque pas. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et dis-leur des paroles généreuses. Dis-leur des paroles généreuses. Parle-leur avec douceur. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et couvre-les. Écoute la métaphore d'Allah Azza wa Jal dans ta façon de te comporter avec tes parents. Et couvre-les des ailes, de tes ailes de l'humilité, de la modestie, par miséricorde, par affection envers eux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ne cesse de répéter, ne cesse de dire: ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde, fais-leur miséricorde comme ils m'ont éduqué tout petit. Dans un autre verset, dans les recommandations que Luqman donna à son fils, Allah Azza wa Jal nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nous avons recommandé à l'homme, nous lui avons recommandé d'être bon envers ses parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. En particulier sa mère, qui l'a porté subissant pour cela peine après peine, difficulté après difficulté. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sois donc reconnaissant envers moi, Allah Azza wa Jalla dit. Sois donc reconnaissant envers moi et sois ensuite reconnaissant envers tes parents. Et c'est vers moi qu'est votre destination. Ensuite, Allah Azza wa Jalla précise: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais s'il t'ordonne de commettre un interdit, alors ne leur obéis pas pour cet ordre-là, lorsqu'il t'ordonne de commettre un interdit. Mais continue à être convenable avec eux malgré tout. Ça nous montre l'importance qu'Allah Azza wa Jal donne au comportement que nous devons avoir avec nos parents, et en particulier avec nos mères. À chaque fois, Allah Azza wa Jal précise et donne une place importante à la mère. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Dans un autre verset, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Sa mère l'a portée subissant peine après peine, et elle l'a mis au monde en subissant difficulté, gêne après gêne, souffrance après souffrance. Mais elle ne s'est pas plainte. Au contraire, c'était pour elle les signes d'un bonheur. Le respect envers les parents, le bon comportement avec les parents, a une place importante parce qu'Allah Azza wa Jal lui donne dans l'ordre des obligations dont nous devons nous acquitter, il lui donne la deuxième place. On l'a vu dans les versets qu'on a cités. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah a décrété de n'adorer que lui. La première chose, c'est d'avoir foi en lui, de l'adorer lui uniquement et exclusivement. Et juste après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Juste après la foi, première obligation, qu'est-ce qui vient juste après? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et de bien te comporter avec tes parents. Dans le verset aussi, dans Surat Luqman que nous avons cité, أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Sois donc reconnaissant envers moi, envers Allah. Ensuite, tout de suite après, qu'est-ce qu'il vient? Vient la reconnaissance envers les parents. Être gratifiant envers les sacrifices que les parents ont fait pour nous. Envers l'éducation que les parents nous ont donnée. Et inversement, si cette obligation, c'est la deuxième plus importante dans notre religion, inversement, ça veut dire que le péché le plus grave, après le premier péché le plus grave, c'est-à-dire l'idolâtrie, rejeter Allah ou associer à Allah, le deuxième des péchés les plus graves sera la désobéissance ou le non-respect des parents. La désobéissance ou le non-respect des parents. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit dans un verset, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète de dire: dis-leur, venez que je vous indique ce qu'Allah vous a formellement interdit. Tout d'abord, ne lui associez rien. Et ensuite, soyez bon envers vos parents. Ne soyez pas mauvais envers vos parents. Donc inversement, le deuxième péché le plus grave, c'est la désobéissance et le non-respect des parents. Surtout le non-respect. Parce que comme on m'a dit, le fils ou la fille peuvent être amenés à désobéir à leurs parents s'ils leur demandent quelque chose d'interdit ou quelque chose de mauvais. Mais malgré cela, il doit tout faire pour bien se comporter avec son père et sa mère. Dans un hadith, pour nous montrer toujours que c'est la deuxième place, le deuxième péché le plus grave, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons alors qu'il était allongé: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ Ne voulez-vous pas que je vous indique le plus grave des grands péchés? Il l'a répété trois fois. Ne voulez-vous pas que je vous indique le plus grave des péchés? Ne voulez-vous pas que je vous indique le plus grave des péchés? Ils ont dit, informe-nous, ô messager d'Allah, dis-le-nous. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé par dire Al-Ishraku billah, associé à Allah, idolâtré, prendre un égal à Allah, adorer autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, implorer autre qu'Allah, ça c'est le péché le plus grave. Ensuite, wa'uququl walidayn, le non-respect envers les parents. Wa'uququl walidayn. Le prophète alayhi salam était allongé, là, le narrateur qui nous rapporte le hadith dit, et là il s'est posé, il s'est assis, et il a dit, Ala wa shahadatu zur, ala wa shahadatu zur. Et aussi, il a dit le prophète alayhi salam, il l'a répété plusieurs fois, et aussi le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. Et les compagnons disent, il ne cessa de le répéter à un tel point qu'on avait envie qu'il se taise, tellement par affection pour lui. Parce qu'on voyait qu'il se faisait du mal. On ne voulait pas qu'il se fasse du mal. Alors répétez avec autant de ferveur. Tellement c'est grave. Ces trois grands péchés. Al-Ishraku billah, idolâtré. Uququl walidayn, deuxième. Le non-respect des parents. Et ensuite, qawlu zur, le faux témoignage. Le respect et le bon comportement avec les parents a une place importante dans notre religion, l'islam, tout simplement parce que ce n'est pas un acte facultatif. C'est un acte obligatoire, comme on vient de l'indiquer à travers les versets et les hadiths. On n'a pas le choix. Tu dois être bon envers tes parents. Tu dois respecter tes parents. Ce n'est pas si tu veux, tu le fais. Si tu veux le laisser de côté, tu le laisses de côté. Alors si c'est un acte obligatoire, mon frère, ma sœur, tu n'as aucun mérite à être bon envers tes parents, sauf le mérite de t'être acquitté de ta dette. Tu as une dette envers tes parents, c'est de les respecter, de leur obéir tant qu'ils ne te commandent pas d'interdits ou de choses mauvaises. Tu les respectes et tu leur obéis, c'est ta dette. C'est une dette envers Allah parce qu'Allah Azza wa Jal te l'a ordonné, et c'est une dette envers tes parents parce que tu le leur dois. Donc si tu t'acquittes de ta dette, est-ce que tu as un mérite? Tu as juste le mérite d'avoir rendu ce qu'on t'a prêté. Tu n'as pas un mérite comme si tu avais fait un acte, un grand acte méritoire. Est-ce que tu as un mérite à faire la prière de dhuhr? Le mérite que tu as de faire la prière de dhuhr, c'est que tu t'es acquitté de tes obligations. Allah t'a ordonné, tu as écouté son ordre et tu l'as appliqué. Par contre, tu as du mérite si tu fais des prières facultatives et tu les multiplies. Eh bien, c'est ainsi. L'obéissance et le respect des parents. Tu t'acquittes de ta dette. Ta dette envers Allah et ta dette envers tes propres parents. Et comme nous l'avons dit, on l'a remarqué à travers les textes, le respect des parents est très important, et en particulier la mère. Allah Azza wa Jal dit, comme on l'a déjà cité, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا. Sa mère l'a porté, subissant peine après peine. Dans un autre verset, حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Elle l'a porté dans son ventre avec peine, et elle l'a mis au monde avec peine. Un compagnon est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle personne envers qui je dois le plus de respect? Qui est cette personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ummuk, ta mère, c'est à elle que tu dois d'abord parmi toutes les personnes le plus de respect. Et ensuite, ô messager d'Allah, il lui répéta, ta mère. Et ensuite, ô messager d'Allah, il lui répéta une troisième fois, ta mère. Et ensuite, ô messager d'Allah, et là il lui dit, enfin ton père. Trois fois, ta mère, et ensuite, ton père. En entendant cette importance que l'islam donne au respect des parents, quel constat on peut faire de nous? Quel constat on peut faire de notre situation, de notre comportement, de notre négligence à propos de cette obligation et de cette dette? Aujourd'hui, malheureusement, alors qu'on doit obéir à nos parents, On a l'impression que c'est l'inverse. Ce sont les parents qui doivent obéir aux enfants. L'enfant ordonne et le père et surtout la mère doivent obéir. Ils doivent être soumis à chacun de ses caprices, à chacune de ses larmes, à chacun de ses pleurs. Par contre, lorsque ses parents ont besoin de quelque chose, lorsqu'à leur tour ils tombent malades, lorsqu'à leur tour ils ont besoin, non. Je n'ai pas à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin du monde, il a cité un des signes en disant « Antalid al-amatu rabbataha ». Parmi les signes de la fin du monde, il y a le fait que la servante ou l'esclave mettra au monde sa propre maîtresse. C'est-à-dire que les parents sont finalement des servants et ils mettent au monde leur propre patron, leur propre maître. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants agissent avec leurs parents comme s'ils étaient les patrons, les maîtres. Et les parents leur répondent comme s'ils étaient leurs servants et comme s'ils leur devaient obéissance au doigt et à l'œil. Aujourd'hui, des choses se sont banalisées dans notre façon de parler avec les parents, sans qu'on s'en rende compte. On a besoin d'eau, l'individu va dire à sa mère, donne la bouteille, passe la bouteille, verse-moi un verre d'eau. Il ordonne à sa mère de lui verser de l'eau. Il ordonne à son père de lui donner de l'eau. Et on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est devenu normal, c'est banalisé. On ne se rend pas compte que c'est gravissime. Tu es en train d'ordonner que ton père ou ta mère te fasse quelque chose. Donne-moi de l'eau. Fais ceci. Viens me chercher. T'as intérêt à venir me chercher, j'ai pas envie de rentrer de l'école à pied. Etc, etc, etc. Et pour le meilleur d'entre nous, il l'ordonnera doucement, sans faire de menaces. Ça montre à quel point de décadence nous sommes arrivés dans nos familles, dans notre façon d'agir avec nos parents. Le jeune, il peut être devant son écran, sur Facebook en particulier, en train de chatter avec Manon ou Céline. Sa mère, elle va l'appeler pour qu'il va faire une course. C'est bon, j'arrive. Et on ne se rend pas compte de la gravité de ces paroles-là. Le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu, une fois sa mère l'a appelé en haussant le ton. Elle lui dit, Ya Abu Huraira, pour qu'il l'entende. Et lui, il a répondu en haussant le ton, mais pas parce qu'il n'était pas content qu'elle l'appelle, parce qu'il s'est dit, elle doit être loin. Juste pour ça, alors que nous, quand on hausse le ton, c'est parce que c'est bon, toujours moi qui dois aller chercher la baguette à la boulangerie. Lui, Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il a haussé le ton, c'est juste pour qu'elle l'entende. Et il a dit, me voici à toi, labbayki ya ummi, me voici à toi, j'arrive. C'est pas, j'arrive, c'est bon, laisse-moi le temps. Non, labbayki ya ummi. Il a haussé le ton en disant, me voici, ô mère. Et là, il a réfléchi, il s'est dit, j'ai parlé plus fort que ma mère. Vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti de chez lui, il est parti, il a acheté deux esclaves et il les a affranchis, il leur a donné leur liberté en demandant pardon à Allah. Il a dit à Allah Azza wa Jal, voilà, je fais cet acte pour m'expier de la grave faute que j'ai fait. J'ai haussé le ton, j'ai parlé plus fort que ma mère. Pas de manière mauvaise, pas en la dénigrant, pas en l'insultant, en lui disant j'arrive tout de suite, faire ce que tu veux. Il est parti, il a acheté deux esclaves et il les a affranchis. Si on compare Abu Huraira radiallahu anhu à notre situation d'aujourd'hui, alors on se rend compte dans quel point d'échec nous sommes. Il ne faut pas s'étonner si nos familles sont déchirées. Si à l'intérieur des mosquées, les individus se déchirent entre eux, ils se divisent entre eux. Si nous ne sommes pas capables de respecter nos mères, alors comment nos mères et nos pères, alors comment on pourrait entre nous nous respecter? Comment tu pourrais respecter ton voisin si tu ne respectes pas tes parents? Comment tu pourrais respecter ton frère en Allah, ta sœur en Allah, si tu ne respectes pas tes parents? Comment tu pourrais respecter ton professeur, le savant que tu écoutes, si tu ne respectes pas tes parents? Tu ne respecteras personne si tu ne respectes pas tes parents. La gravité aussi de notre situation, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu aussi banal que des jeunes insultent leurs parents. Ils les insultent. Et les parents sont démunis. Ils les insultent. Et le prophète a formellement mis en garde contre cela. Il a dit, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ. Qu'Allah maudisse celui qui insulte ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui insulte ses parents. Aujourd'hui, c'est devenu, si on parle de ça, quelqu'un a insulté ses parents, c'est devenu banal, on sait que ça existe. Au temps des compagnons, radiallahu anhum, c'était quelque chose d'hallucinant. À un tel point que le prophète, lorsqu'il a dit aux compagnons, min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayk, parmi les grands péchés, il y a le fait que l'individu insulte ses parents. Lorsqu'il leur a dit, parmi les grands péchés, il y a cela, les compagnons, ils ont dit, mais comment un homme pourrait insulter ses propres parents, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ar-rajulu umma ar-rajul fa yasubbu umma. Lorsque l'individu insulte son interlocuteur en insultant son père, c'est comme s'il insultait son propre père. Et lorsqu'il insulte son interlocuteur en insultant sa mère, c'est comme s'il insultait sa propre mère. C'était ça la façon connue d'insulter ses propres parents à l'époque. C'était une façon indirecte d'insulter ses parents. Aujourd'hui, il n'y a plus d'indirect. C'est directement. L'individu, on peut l'entendre parler à ses parents comme s'il parlait à je ne sais qui. Comme le hadith l'a dit, à un esclave. Et devant le public, yani devant tout le monde, devant ses amis. Ses parents l'appellent sur son portable pour lui demander de rentrer, il va crier sur ses parents autour de ses amis. Et il pense qu'il va être vanté par ses amis grâce à cela. Il montre à ses amis que lui, il parle mal à ses parents. Toujours, parmi les points que nous pouvons énumérer sur le grave constat que nous avons à faire de notre situation et de notre comportement avec nos parents, c'est juste sur les traits du visage, le fait de ne pas sourire en présence de nos parents, de faire la tronche, comme on dit vulgairement, de faire la tête, ça fait partie du non-respect des parents. Le fait de prendre une position en compagnie de ses parents, en étant allongé ou là une drôle de position, ça fait aussi partie du non-respect envers les parents. Le fait de froncer les sourcils en présence de ses parents, d'avoir les traits du visage tirés, crispés, ça fait partie du non-respect des parents. Le fait de ne pas regarder modestement ses parents, de le regarder de manière orgueilleuse, ou de les regarder de travers encore pire, ça fait partie du non-respect des parents. Et c'était des choses, comme je vous le dis, qui n'existaient pas au temps des compagnons, radiyallahu anhum. C'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Regarder de travers ses parents, mais c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et jusqu'à encore, il y a quelques décennies, je me rappelle que il y a quelques années, j'étais du côté des Ardennes, dans une mosquée, une petite ville, si je ne me rappelle pas, c'est une toute petite ville qui s'appelle Revin. Et il y avait un père avec nous, un ancien, et nous, c'était hier à l'occasion d'un mariage. On mangeait ensemble avec l'ancien, et au bout de 3 minutes, l'ancien a arrêté de manger. Et nous, on était avec lui, avec des jeunes avec lui. Et donc j'ai insisté, je lui ai dit, mange, continue à manger, tu n'as presque rien mangé. Il a dit, non, je me suis rappelé de quelque chose et je préfère arrêter de manger tout de suite. Tu t'es rappelé de quoi? Il a dit, je me suis rappelé que nous, quand on avait votre âge, on n'osait même pas manger avec les anciens, avec les parents. Et je vous vois, vous êtes là, vous discutez entre vous, vous rigolez entre vous et vous mangez à pleine dent. Vous calculez rien du tout. Agis, yani. Et ça, c'est pas quelqu'un qui a vécu autant des compagnons, radiallahu anhu. Juste, il y a 30 ans à aujourd'hui, on est passé du sommet au fossé. Aussi, parmi ce qu'on peut citer dans le constat qu'il y a à faire dans notre mauvais comportement avec les parents, le fait de ne pas les aider physiquement et financièrement quand ils en ont besoin et qu'on a la capacité de les aider. Combien seront occupés sur leur portable à envoyer des messages, sur internet, ou devant la télévision, ou à s'amuser et à rigoler avec leurs amis, pendant que le père surra toute la journée à bricoler quelque chose à la maison qui servira à cet enfant et à toute la famille. Combien d'entre nous préféreront passer des heures devant internet, des heures devant la télévision, des heures à jouer, à s'amuser, à se divertir avec leurs amis, pendant que la mère toute la journée elle est devant le fourneau, devant la marmite, debout, mal aux genoux. Pourquoi ? Pour que les enfants puissent manger à leur faim. Mais l'enfant, lorsqu'il rentre à la maison, il ne se dit pas toute la journée, elle a travaillé, elle a fait ça pour moi, non. Il va d'abord voir ce qu'il y a dans la marmite. Il ouvre le couvercle. Et dans la plupart des cas, ce sera une critique, avec un soupir. Toujours la même chose qu'on mange dans cette maison. J'en ai marre. Agib. Aussi, parmi les constats qu'on a à faire, le fait de mal saluer les parents. Aujourd'hui, on a beaucoup ça chez nos jeunes. Sous prétexte que, je mets des guillemets, il ne veut pas se hachem devant ses sahabs, il ne va pas embrasser son père sur le front ou sur la main. Il va le faire à la maison, mais si par exemple il vient le chercher à l'école ou là il a un rendez-vous à l'école, parents, professeurs, etc. C'est comme si c'était un étranger, son père. Il y a 3 mètres là-bas. Agib. Alors pour qu'on prenne conscience à quel point on s'est éloigné, à quel point on a perdu ce grand mérite, cette grande vertu, cette noblesse qu'est le bon comportement et le respect envers les parents, je vais citer quelques exemples de nos prédécesseurs pieux, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu anhum et les tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons. Comment ils étaient avec leurs parents? Comment ils étaient avec leurs parents? Et qu'est-ce qu'ils disaient à propos du respect envers les parents? Le compagnon Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu, quand on lui demandait c'est quoi respecter ses parents, ma huwa al-birru bil-walidayn, il disait ma barra walidayhi man hadda at-tarf ilayhima. Il n'a pas respecté ses parents, celui qui regarde de travers ses parents. Celui qui les regarde de travers, il ne les respecte pas. À partir du moment où tu le regardes mal, c'est là que commence le non-respect des parents. Alors le constat que nous avons cité d'insulter, de dénigrer, d'ordonner, de ne pas rendre service, c'est loin dans la désobéissance. C'est loin dans le non-respect des parents. À partir du moment où tu te contiens, tu patientes, tu endures à toutes les critiques, tout ce que tes parents pourraient te dire, pourraient te reprocher, mais tu le montres juste à travers ton regard, alors sache que tu fais partie de ceux qui désobéissent et qui ne respectent pas leurs parents. Le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhu, on lui a demandé ma huwa al-birru bil-walidayn, qu'est-ce que le respect des parents? Il a dit, c'est quelque chose de trop vaste pour que je puisse l'expliquer en une phrase. Ils lui ont dit, alors explique-nous, ma huwa al-uquq, qu'est-ce que l'inverse de l'bir, du respect, le non-respect des parents? C'est quoi le non-respect des parents? Alors il a dit, je vais vous donner un exemple. لو نفض الرجل ثوبه بجانب والديه فتطاير الغبار على أبيه أو أمه فذلك هو العقوق. À partir du moment où un individu va prendre son vêtement et qui va le secouer comme ça pour enlever la poussière, qu'il a oublié qu'à côté il y a ses parents et que cette poussière va aller gêner ses parents, c'est là que commence le non-respect des parents. C'est quelqu'un qui respecte tout le temps ses parents. Mais à ce moment-là, il s'est relâché un petit peu, il a voulu juste les secouer son vêtement. Et la poussière, elle a atteint les yeux de sa mère ou de son père. Elle a gêné son père ou sa mère. Là commence le non-respect des parents. un grand savant de notre communauté qui s'appelait Haywa ibn Shuraih. Haywa ibn Shuraih donnait des cours à la mosquée. Il donnait des cours dans une assise, dans une assemblée à la mosquée. Et sa mère était connue pour être attardée un petit peu mentalement. Et elle avait l'habitude, lorsqu'il donnait ses cours à la mosquée, de passer sa tête. Sa mère, elle avait l'habitude de passer sa tête à travers la fenêtre de la mosquée, et elle interrompait son fils. Imaginez-vous, vous êtes devant un grand savant, un grand cheikh. Et une vieille dame arrive, elle passe sa tête par la fenêtre, et elle interrompt cet homme, c'est sa mère. Et elle était un petit peu attardée mentalement. Elle lui disait, Haywa, arrête, arrête donc de parler. Tu as oublié les poules. Qui va nourrir les poules? Et les poules, il s'occupait toujours de ses poules. Yani, il leur donnait les grains quand il fallait. Mais elle avait l'habitude, comme elle était un petit peu, yani, elle était un petit peu attardée mentalement, de venir le couper, et de l'interrompre et de lui dire, va nourrir les poules, tu n'as pas encore donné les grains, va donner les grains. Et les gens s'attendaient à ce qu'ils disent, à sa mère au minimum, parce qu'il la respecte, je vais le faire, je termine mon cours et ensuite je vais aller m'occuper des poules. S'ils attendent une demi-heure, les poules, elles ne vont pas mourir. Qu'est-ce qu'il disait? Il ne parlait pas à sa mère, il parlait à ses élèves. Et il leur disait, tadrisukum, ou plutôt il leur disait, hadha wajib, wa tadrisukum nafl. Ce que ma mère m'ordonne de faire est une obligation pour moi. Mais vous donner des cours, c'est quelque chose de facultatif. Si vous voulez les cours, patientez. Il partait, il nourrissait les poules, il leur donnait les grains, et ensuite il revenait terminer le cours. Voilà comment était Haywa ibn Shuraih. Il ne s'est pas dit, ma mère, elle a un problème mental, donc je suis excusé, je ne suis pas obligé d'obéir à son ordre, et en plus je vais lui obéir, mais pas tout de suite, etc. Non. Elle m'a ordonné de le faire maintenant, j'interromps mon cours, et j'y vais. Un autre exemple, le tabi'i Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, lorsque sa mère était chez lui, et elle vivait chez lui, lorsqu'elle était là à la maison, rarement, on ne l'avait jamais vu, on ne le voyait jamais aller sur la terrasse. Quelqu'un l'a remarqué, il lui a demandé, pourquoi tu ne vas jamais sur la terrasse? Il a dit, comment pourrais-je aller sur la terrasse alors que ma mère est à l'intérieur de la maison? Cela voudrait dire que je me trouve au-dessus de ma mère. Ce serait un manque de respect pour ma mère. D'aller à l'étage, d'aller sur la terrasse. Muhammad ibn al-Munkandir, radiyallahu anhu, un tabi'i aussi, et un des grands savants et des grands lecteurs de la ville de Médine, juste après la génération des compagnons, radiyallahu anhu. Muhammad ibn al-Munkandir, disait, je jure par Allah Azza wa Jal que s'asseoir quelques instants avec sa mère et remplir le temps de sa mère en discutant avec elle est mieux pour Allah que de faire le jihad fi sabilillah. C'est mieux pour Allah que d'aller sacrifier sa vie. S'occuper de sa mère, lui donner de l'importance. S'asseoir avec elle et parler avec elle. Faire en sorte de lui parler de quelque chose qu'elle aime qu'on lui parle. L'intéresser dans les paroles, ça c'est quelque chose qu'Allah préfère à pratiquer le jihad. Lui-même, Muhammad ibn al-Munkadir, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, un jour, ma mère avait mal aux pieds. Elle avait mal aux pieds. Alors j'ai passé toute la nuit à lui faire des massages sur son pied pour qu'elle ressente moins la douleur. Et il dit, il y avait mon frère Omar qui a passé toute cette nuit-là à prier. Il dit, je jure par Allah Azza wa Jal que la récompense que j'aurai moi en ayant passé toute ma nuit à masser le pied de ma mère est plus importante que la récompense qu'il aura lui en ayant prié toute la nuit. C'est ça le respect des parents. Al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu lui aussi un grand savant et un grand tabi'i, le jour où son père est mort, les gens racontent qu'il pleurait comme un enfant. Il pleurait, on l'entendait pleurer, c'est pas juste il sanglotait, on l'entendait pleurer comme un enfant. À un tel point que les gens lui ont dit, mais « Ya imam, tu es un savant, c'est pas nous qui allons t'apprendre qu'il faut patienter lorsqu'on est touché par une épreuve. » Il leur a dit, « Oui, je sais qu'il faut patienter, mais vous ne comprenez donc pas. J'avais deux portes du paradis qui étaient ouvertes, mon père et ma mère. Et aujourd'hui, avec la mort de mon père, il y a une porte qui s'est refermée, à tout jamais. Voilà pourquoi je pleure. » Un savant du hadith, Muhammad ibn Bashar, qui était surnommé Al-Bundar. Muhammad ibn Bashar, rahimahullah, vous savez, à l'époque, les savants du hadith, c'est pas comme aujourd'hui. Ils allaient voir sur Google, ils tapaient le hadith et ils lui sortaient le hadith, s'il est authentique, s'il est faible, qui l'a authentifié, qui l'a affaibli. Avant, pour avoir un seul hadith, et on ne sait même pas s'il allait être authentique ou faible, il faisait des centaines de kilomètres à pied dans la plupart des cas. Et Muhammad ibn Bashar a voulu commencer ce périple pour devenir un grand savant du hadith. Et l'historien Shams al-Din al-Zahabi dit, lorsqu'il raconte sa vie, il dit, c'est un grand savant du hadith. Il a été le seul à rassembler tous les hadiths de la ville de Basra, sans faire aucun voyage. Ça relève du miracle à l'époque. Sans bouger pour aller chercher le hadith et devenir un grand savant du hadith, ça relève du miracle. Alors c'est quoi le secret de ça? C'est lui-même qui le raconte, Muhammad ibn Bashar. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai voulu sortir pour aller à la recherche, à la quête des hadiths. Mais ma mère me l'a interdit. Elle m'a dit, je t'interdis d'aller loin de moi. Je veux que tu restes avec moi, que tu t'occupes de moi. Alors il a dit, je ne pouvais pas désobéir à ma mère. Je suis donc resté, mais Allah Azza wa Jal a béni, il m'a donné la bénédiction dans la science du hadith. Voilà comment il a réussi à rassembler le hadith sans bouger, grâce à son obéissance et à son respect envers sa mère. Et on terminera par citer le compagnon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, un jour il était sur son dromadaire avec un turban bien habillé et il était avec d'autres hommes et il a vu un bédouin arriver au loin. Il s'est mis à scruter, à bien regarder et d'un coup il a commencé à s'affoler et il a paniqué. Il est descendu de son dromadaire. Il a couru vers le vieux bédouin, il lui a donné le dromadaire alors que le vieux bédouin il marchait à pied, il lui a dit monte, et il l'a aidé à monter alors que Abdullah ibn Omar, lorsqu'on raconte ça, c'était un moment, il avait atteint un âge, il était âgé, il était considéré comme un grand savant, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Il a fait monter le vieux bédouin, sur le dromadaire, personne ne le connaissait. Et il a enlevé son turban, il lui a mis le turban. Les gens lui ont dit, mais ya Abdallah, ya Ibn Omar, ô fils de Omar, tu sais très bien que les bédouins se contentent de peu. Tu sais bien que les bédouins se contentent de peu, ils ont l'habitude de marcher à pied, ils ont l'habitude du soleil sur leur tête sans turban. Pourquoi tu fais tout ça? C'est qui? Il a dit, lui, son père à cet homme, pas lui, mais son père, à cet homme envers qui je fais tout ce bien, son père aimait beaucoup mon père. Et ça fait partie du respect de mon père d'être bon et d'être bienfaisant envers tous ceux et les enfants de tous ceux qui aimaient mes parents et qui respectaient mes parents. Et enfin, pour terminer toujours avec Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, un homme était à la Mecque pour le pèlerinage et il a pris sa mère sur son dos. Elle n'était plus capable de marcher pour faire le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba. Il a pris sa mère sur son dos. Et il s'est mis à faire les 7 tours autour de la Kaaba. Et il a rencontré pendant le tawaf Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Et il lui a dit: tu vois comment je me comporte avec ma mère? Réponds-moi franchement. Ne lui ai-je pas rendu tout le bien qu'elle a fait pour moi lorsque j'étais petit? Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma lui a dit: je jure par Allah que tout ce que tu fais n'équivaut même pas à un seul de ses soupirs lorsqu'elle t'a mis au monde, lorsqu'elle a accouché. Et c'est son père Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui disait, lorsqu'un homme est venu le voir et qu'il avait une mère très âgée, il s'occupait d'elle, il la câlinait, il lui faisait à manger, il la lavait, il lui donnait ses vêtements. On n'avait jamais vu un homme aussi bien s'occuper de sa mère que cet homme. Et il a dit à Omar ibn al-Khattab: ne lui ai-je pas rendu ce que je lui devais, tout le bien qu'elle m'a donné, je ne lui ai-je pas rendu? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit: tu es loin de lui avoir rendu et tu ne le rendras jamais. L'homme a dit: mais pourquoi donc? Il lui a dit: parce que ta mère, lorsqu'elle était bienfaisante envers toi, lorsqu'elle s'occupait de toi, lorsqu'elle passait toute la nuit réveillée parce que tu pleurais, parce que tu étais malade, parce que tu souffrais, lorsqu'elle avait mal parce que tu étais malade, elle avait plus mal que toi, tu avais mal, elle le faisait tout en espérant pour toi une longue vie et tout en implorant Allah Azza wa Jal qu'il te donne une longue vie et qu'il te bénisse dans ta vie. Alors que toi tu le fais, mais tu sais que ce sera court, c'est éphémère. Ta mère va bientôt te quitter et tu te dis: plus tard, je n'aurai plus à m'occuper d'elle, il faut juste que je patiente maintenant. Comment donc voudrais-tu lui rendre son haq, lui rendre son dû? Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens exemplaires avec nos parents. Barakallahu fikum pour votre attention. S'il y a des questions sur le sujet uniquement, on va essayer d'y répondre, Inch'Allah.
Inch'Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question particulière en rapport avec le sujet? S'il y a quelqu'un qui veut lever la main et qui veut poser sa question.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah.
En fait, il y a souvent un problème qui se répète dans de nombreuses familles, malheureusement, c'est le problème entre belle-mère et belle-fille. Donc, comment faire? Parce que parfois, les belles-mères sont responsables de cette situation. Et donc, comment faire pour ne pas être injuste envers sa femme et être juste envers sa mère aussi?
Non. Sans aucun doute, c'est un des problèmes récurrents chez beaucoup de couples et malheureusement même un des problèmes responsables de certains divorces. Il appartient donc tout d'abord à l'épouse et à l'époux de comprendre l'importance de la mère pour la belle-fille, sa belle-mère, et pour le fils, sa propre mère. En aucun cas, l'homme n'a le droit de mettre sa femme avant sa mère. Cela ne veut pas dire que la mère a toujours raison. Il est possible, et même fort probable, qu'elle se trompe, qu'elle soit injuste, qu'elle exagère, qu'elle abuse envers la belle-fille. Malgré tout, il faut que cette belle-fille donne du sien, qu'elle comprenne qu'elle a affaire à la mère de son mari, et que son mari ne peut pas la mettre à la porte. Il ne peut pas prendre sa défense, la défense de son épouse, de manière virulente, véhémente, à l'encontre de sa mère. Et le mari doit être juste. Il ne doit pas non plus tomber dans un autre piège. Beaucoup de jeunes tombent dans ce piège-là, de jeunes mariés. Il donnera coûte que coûte raison à sa mère et délaissera son épouse. Non. Le musulman, c'est le musulman du juste milieu. Lorsque sa mère a raison, sa mère a raison. Lorsque sa femme a raison, sa femme a raison. Mais même si sa femme a raison, cela n'implique pas le fait qu'il doit être mauvais envers sa mère. Il doit tenter de convaincre sa mère, na'am, de la manière la plus douce, et surtout sa femme, de lui expliquer que c'est sa mère. Même s'il comprend, il comprend, il le dit à son épouse, il sait que sur cette affaire-là, c'est elle qui a raison. C'est pas sa mère. Mais juste parce que c'est sa mère, elle doit faire un effort. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et ne pas tomber dans un extrême, prendre le parti de l'épouse coûte que coûte, comme certains le font, et d'autres, prendre le parti de la mère coûte que coûte. Non. Le musulman doit toujours être au milieu, il doit respecter sa mère. Même si elle demande quelque chose d'ahurissant, il respecte. Si elle demande quelque chose qui va causer la perte du couple, il ne lui obéit pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il va commencer à se quereller avec sa mère, en lui disant « Pourquoi tu me demandes ça? Tu veux que je divorce ?» etc. Non. Il ne lui obéit pas, mais il continue à bien parler avec sa mère et à bien se comporter avec sa mère. Wallahu a'lam.
Salam alaikum.
Wa alaikum
salam. Je veux juste savoir, le fait de désobéir à ses parents, est-ce que c'est un péché plus grave que les péchés comme la fornication, l'adultère, la médisance ou encore la calomnie?
Barakallahu fik. Yani, sur l'ordre qu'on a cité, la chronologie, le prophète salam, a bien cité dans le hadith qu'on a cité, la désobéissance aux parents, juste après le shirk, juste après l'idolâtrie, et donc avant la fornication et l'adultère. Même si dans d'autres hadiths, l'ordre il n'est pas tout à fait le même. Mais dans les hadiths qu'on a cités, pour montrer la gravité, le prophète a dit « Al-Ishraku billah, thumma al-ufuqu bil-walidayn, thumma shahadatu zur. » L'idolâtrie, ensuite le non-respect des parents, et ensuite seulement vient le faux témoignage et les autres grands péchés. Donc, si on prend en compte cette chronologie, naram, c'est un péché qui est plus grave. Parce que ça implique deux graves erreurs. La première, comme on l'a dit, c'est qu'on ne remplit pas sa dette envers Allah. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de respecter nos parents. Il nous ordonne une obligation. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il nous ordonne de bien se comporter avec nos parents. Et la deuxième erreur grave que cela implique, c'est que nous n'avons pas rendu notre dette envers nos parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَوَهُ. Sa mère l'a porté peine après peine. Et donc, dans ce sens-là, la gravité, elle est plus grave. La gravité, elle est plus forte. Wallahu a'lam. Faudrait quand même faire une étude plus approfondie pour répondre mieux à la question. Wallahu a'lam. Mais si on prend en compte la chronologie du hadith qu'on a cité, et si on prend en compte l'implication des conséquences, sur cet aspect-là et dans ce domaine-là, on peut dire que c'est plus grave. Si on parle d'autres aspects, d'autres domaines, alors il y aura peut-être un autre ordre dans les grands péchés. Et c'est probablement la raison pour laquelle, dans plusieurs hadiths, le prophète Hassan, lorsqu'il cite les grands péchés, il ne donne pas à chaque fois le même ordre. Parce qu'en fonction d'un domaine et des conséquences que ça implique, un péché sera plus grave que l'autre. Wallahu a'lam.